La semaine passée, nous avions commencé à énumérer les différentes implications de l'ascension, donc du retour de notre Seigneur Jésus auprès de son Père. Alors nous allons continuer aujourd'hui, en ce jour où nous commémorons la Pentecôte, donc le don de l'Esprit Saint fait à l'Église. Donc c'est un peu notre anniversaire en tant qu'Église aujourd'hui. Et on va commencer par s'arrêter sur le grand avantage, le plus grand sans doute, du départ physique de Jésus, sa présence se fera dorénavant spirituelle, mais aussi, c'est important, permanente par la présence de l'Esprit en nous. Ça devait être super d'avoir Jésus physiquement à côté de soi, mais pendant qu'il était à côté de moi, il ne pouvait forcément pas être à côté de quelqu'un d'autre. Ça, c'est puissamment raisonné, ce que je viens de dire. Donc le troisième, merci, je le dis moi-même, parce que bon, je dois compter sur vous. Donc le troisième avantage, donc la troisième conséquence bien heureuse, positive de son départ, c'est si Jésus était resté parmi nous, il n'aurait forcément pas envie le Saint-Esprit. Une des dimensions, c'est, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est de consoler, de nous consoler, et certainement dans un premier temps, de consoler les disciples qui étaient proches de lui, qu'il avait suivi pendant ses 3 ans de ministère terrestre, de son départ. On va prendre un texte, le texte dans l'évangile de Jean, qui est le plus poignant à ce niveau-là, je pense, et qui relate donc ces paroles de Jésus à ses disciples complètement effondrés de ce qu'il était en train de dire, qu'il allait mourir, c'est déjà pas de la tarte, et puis qu'il allait retourner les quitter. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. À un niveau purement humain et relationnel, on ne pourra jamais véritablement comprendre ce que ça a dû être aux disciples de s'entendre dire que leur maître allait les quitter. Ils avaient quand même, eux, puisqu'on parle de quitter, ils avaient quitté tout ce qu'ils connaissaient. Ça faisait 3 ans qu'ils ont envoyé tout par-dessus bord pour suivre leur maître. Et ils pensaient sans doute que ça ne s'arrêterait pas, qu'au contraire, Jésus allait installer son royaume ici, et maintenant, il y a 2000 ans, allait régner sur Israël et qu'ils seraient, pendant toute leur vie terrestre, auprès de lui, à des postes forcément privilégiés, étant donné qu'ils étaient ses disciples. Alors il dit non, ça va s'arrêter, je vais mourir, donner ma vie pour vous, et puis je retournerai d'où je viens, à savoir à la droite de mon Père. On ne peut pas comprendre l'annonce de cette parole sentimentalement, émotionnellement parlant, parce que nous n'avons jamais été physiquement près de Jésus. Physiquement, j'entends. Si l'un de vous me dit, moi j'ai été physiquement présent avec Jésus, il faudrait vraiment qu'on parle, parce qu'il y a un léger souci. On ne peut pas comprendre vraiment profondément parce que c'est une expérience qu'humainement nous n'avons jamais vécue. Nous pouvons parfois imaginer un petit peu, malgré tout, lorsque nous ressentons le besoin physique de la présence du Seigneur, tous ces moments où il peut être spirituellement présent, bien entendu par l'Esprit Saint, mais où nous aimerions tellement qu'il soit là physiquement pour nous prendre, par exemple, de temps en temps, dans ses bras et nous consoler. Je suppose qu'à certains moments dans votre vie, ça peut vous arriver d'avoir besoin de ressentir sa présence. Ce besoin, quelque part humainement légitime, peut trouver une réponse et doit trouver une réponse dans la communion fraternelle. Si Dieu a des bras pour consoler, eh bien ces bras, c'est son Église qui les possède aujourd'hui. C'est pour ça qu'il l'a laissé ici-bas. Donc si quelqu'un pleure à votre droite à 1 mètre de vous et que vous ne la prenez pas dans vos bras, vous n'avez pas compris grand-chose à ce qui est supposé être ou devenir l'Église. Donc je pense qu'on doit tous, à titre individuel, réfléchir à ça. Donc pour les disciples, pour les 12 en particulier, ça a été terrible. J'en suis persuadé. D'entendre ces paroles de Jésus, et d'ailleurs Jean le dit, ils sont attristés. En fait, Jésus dit, vous n'écoutez rien de ce que je suis en train de vous dire parce que votre cœur est triste. Et quand on est triste, mes amis, quand on a des sentiments aussi profondément négatifs en soi, on est centré sur cette tristesse, on est centré sur son sentiment et on peut raconter ce qu'on veut autour de vous, vous n'entendez strictement rien. Rappelez-vous, la souffrance est toujours égocentrique, elle nous ferme. Sur l'extérieur. Et puis le pire, à mon avis, ça a été, oui, vous êtes triste, mais je vous dis, il est vraiment avantageux que je parte. Alors là, ça devait être le... mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais il est fou, lui, ou quoi? Il est notre meilleur ami, on a sacrifié notre vie pour lui, et il nous dit, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Quel avantage pouvait-il bien avoir à ce que le maître les quitte? Eh bien, le don du Saint-Esprit, tout simplement. Sans départ physique de Jésus, pas de consolateur. Et c'est vrai que ça allait faire une solide différence, le don de l'Esprit, dans l'histoire avec un grand H, dans l'histoire du monde. On rappelle quand même que notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus. On compte les années à partir de la naissance du Christ. Et même les plus grands athées font quand même référence à l'espace et au temps par rapport à la naissance de Jésus, même si cette naissance a été mal calculée. Vous le savez sans doute. Hein. En fait, Jésus est né en moins 4 probablement avant la date, l'an 0, avant la date que l'on a fixée pour sa naissance. Jésus va démontrer d'une manière magistrale, dans ce passage, les trois dimensions, les trois domaines dans lesquels son esprit va avoir un impact. Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Le premier de cette sphère d'influence que l'Esprit Saint va occuper, c'est le monde. Je rappelle quand même que dans la pensée biblique, et en particulier dans l'évangile de Jean, le monde, c'est un système de croyances, de fonctionnement et de vie qui est antagoniste, qui va à l'opposé de ce que Dieu pense et de ce que Dieu dit. Donc ce ne sont pas les personnes en tant que telles, c'est la pensée ambiante. L'Esprit Saint, dit Jésus, dans ce passage de Jean que nous venons de voir, est donné au monde, pourquoi ? Ben, en vue du salut. Il n'est pas donné qu'aux disciples. Il est donné aux disciples, car à travers eux, c'est le salut qui va être prêché au monde. Donc la capacité qu'auront les gens qui constituent ce monde de venir à Dieu. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est indispensable pour le salut ? Parce que, dit Jésus, il est le seul qui est capable de convaincre un homme ou une femme de son état de pécheur, de séparation d'avec Dieu. Nous n'avons pas, je le rappelle, hein, je suis certain que vous savez, mais j'aime bien le rappeler de temps en temps, parce que quand j'en vois certains fonctionner, ça me fait un peu peur, nous n'avons pas la capacité de convaincre qui que ce soit de son état de perdition devant Dieu, de son besoin de guérison, de son besoin d'amour et de pardon. Nous n'avons pas cette capacité. Il n'y a que l'Esprit qui l'a, parce que l'Esprit est Dieu, ce que nous ne sommes pas. Mais malgré tout, notre responsabilité, c'est de laisser grandir cet esprit dans nos vies afin que cet esprit puisse à certains moments rentrer en contact direct à travers notre parole avec la personne qui a besoin de Dieu. Et je rappelle quand même que tout le monde en a besoin. Donc nous n'avons pas le pouvoir de convaincre l'autre de son besoin fondamental qui est Dieu. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, disait à Isabelle, à ma femme, « La vie n'a pas de sens, aucun sens ». C'est une très bonne analyse. La vie n'a pas de sens si Dieu n'est pas là. Alors, certains s'en sortent plus ou moins bien sans Dieu. Hein. Ils investissent dans leur famille, dans le pognon, dans leur carrière. Voilà, bien sûr. Il faut bien tirer ses flûtes, comme on dit, si Dieu n'est pas là. N'empêche que toutes les maladies de l'homme, toutes ses blessures, son inadaptation, sa difficulté à aimer, à être aimé, vient de ce qu'il est orphelin de son Père d'en haut. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu le cas dans ma vie physique, parce que là, je parlais du spirituel, mais je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être orphelin, hein. Non ? L'homme ne connaît pas son père, il n'a pas de père. Et Paul va résumer terriblement bien cet état de choses lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse pour leur mettre la tête à l'endroit. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, donc avant votre rencontre avec Dieu, vous étiez sans Messie, donc sans Sauveur. Exclu du droit de cité en Israël, il parle à des païens. Vous ne connaissiez même pas ce Dieu, ne fût-ce qu'intellectuellement, puisqu'il était réservé, en termes de révélation, au peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, aucune promesse pour vous. Avant que le Messie ne vienne, ne meure et ne ressuscite. Vous étiez, et c'est ça, enfin, il résume extraordinairement bien l'état de l'homme, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Être sans Dieu, c'est être sans espérance. Alors on dit, oui, après la mort, non, oui, ben, après la mort, peut-être, on verra bien. Mais ici déjà, je crois qu'il y a autant, on a toujours le record, deuxième record du monde de suicide parmi les jeunes, la Belgique, hein, après le Japon. Chaque fois qu'on est bien placé dans un record en Belgique, c'est toujours des trucs catastrophes, quoi. Plus mauvais conducteur d'Europe, les Belges. Quand vous pensez que dans l'étude, il y a les Turcs et les Italiens, ça fait peur. Hein. On est pire qu'eux. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une chose, forcément, que le monde ne peut pas savoir, et mais qu'aujourd'hui, me semble-t-il, hein, je vais dire ça avec beaucoup d'humilité, hein, parce que je me bats avec ça aussi dans ma vie, mais nous avons perdu de vue, même les chrétiens, c'est pour ça qu'ils s'injectent aussi dans plein de trucs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous avons perdu de vue que nous avons été créés pour prendre notre plaisir en Dieu. La plus grande puissance de jouissance sur cette terre déjà, c'est de rencontrer, de devenir intime et de devenir profondément lié, de le connaître profondément, ce Dieu qui aujourd'hui a fait son habitation en nous par son Saint-Esprit. Tout comme notre corps a besoin de pain et d'eau pour vivre, ce n'est pas pour rien que la Seine est basée sur le pain, pas sur l'eau, mais bon, parce que l'eau ne ressemblait pas assez au sang, puisque c'est symbolique, notre âme a besoin de Dieu pour vivre. Alors la plupart des gens à l'extérieur ne croient pas en l'âme, cette partie matérielle de l'être. Ils n'y croient pas. Ils n'alimentent que leur corps physique, mais ils meurent de quoi ? Ils meurent de leur absence de nourriture et de boissons fondamentales pour nourrir leur âme. Et cette âme, c'est valable pour eux comme pour nous, il n'y a que Dieu qui peut la substanter. Rien d'autre. Vous pouvez bourrer, compenser par plein de trucs. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce que Jésus va dire. Vous vous dites, ouais, ben, ça, tu penses, il dit non. Toujours dans l'évangile de Jean, le dernier jour, ça, qui en comptait sept, de la fête des tabernacles, toujours dans l'évangile de Jean, fête des tabernacles qui commémorait le séjour de 40 ans d'Israël au désert. Et encore aujourd'hui, si vous allez en Israël, pendant cette semaine de la fête des tabernacles, les Juifs quittent leur maison et plantent des tentes. Et pendant 7 jours, et c'est la fête, hein, pendant 7 jours, ben, ils dorment et ils vivent dans ces tentes. Ça va être comique. Hein. Moi, je déteste le camping, donc j'aurais fait un très mauvais juif. Moi, j'aurais brossé la fête des tabernacles, moi, je vous le dis. À moins d'avoir une tente comme Brett Sinclair, pour ceux qui connaissent amicalement vos, de 300 mètres carrés, à la limite. Le dernier jour de cette fête, alors que le grand prêtre allait à la source de Sion, de Siméon, pardon, pour prendre de l'eau et l'asperger sur l'autel extérieur devant le temple, afin que les juifs se rappellent que dans le désert, c'est Dieu lui-même qui leur a donné à boire, dans le désert à boire, bon courage. C'était Dieu eux-mêmes, cette source, c'est ça qui commémorait. C'est ce septième jour-là que Jésus se lève au milieu de la foule et qu'il dit, si quelqu'un a soif, c'est pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'il le dit, hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela, dit Jean, à propos de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mes amis, l'homme ignore qu'il a une âme, et encore moins une âme qui se meurt parce qu'elle aspire à étancher sa soif de Dieu. L'Esprit est donné pour faire prendre conscience de ça. Et ce qui est très interpellant, et je trouve ça fabuleux, hein, c'est que Jésus ne pose qu'une condition pour étancher cette soif. Avoir soif, simplement. C'est tout. Vous avez soif ? Venez. On pourrait peut-être douter, comme certains doutent, hein, de la volonté de Dieu de nous rencontrer, d'étancher notre soif. Mais un petit quelque chose dans le contexte de ce passage de l'évangile de Jean, que nous avons eu au début, devrait nous aider à lever nos doutes. Je n'ai pas pris le passage, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre 7, et ça, ça serait trop long. Mais quand on étudie le contexte de cette parole de Jésus, il y a une question qui vient, qu'on doit se poser. À qui offre-t-il de venir à lui ? C'est ça qui est extraordinaire. Il l'offre en fait à trois catégories de personnes. S'ils ont soif, hein. Dans le contexte, aux pharisiens. C'est fou ça quand même. Donc des gens qui le combattent, qui nient sa divinité, qui, juste avant dans le chapitre, ont envoyé des gardes du temps pour arrêter Jésus. C'est à eux qu'il dit, si vous avez soif, vous êtes au crevé de vos pompes, hein, vous voulez me faire mourir, mais moi je vous dis, si vous avez soif, venez à moi. La deuxième catégorie, c'est pas mieux. Ce sont les soldats que les gens, les responsables du temple, ont envoyés pour arrêter Jésus. Et ils sont revenus sans Jésus. Et les pharisiens disent, mais où est-ce qu'il est ? Vous ne voulez pas arrêter ? Ils répondent parce qu'on n'a jamais entendu personne parler comme ils parlent. Donc, ils ne l'ont pas arrêté. Parce que ce n'était pas le moment non plus, d'après le plan divin. N'empêche que c'est aussi à ces soldats qui viennent pour l'arrêter et qui finissent par entendre sa parole qu'il dit « Si vous avez soif, venez. » Et la troisième catégorie de personnes, c'est la foule. Et Jean dira qu'elle est divisée. Il y a une partie de la foule qui se dit « Ah, il est quand même peut-être bien le Messie. » Et puis une bonne partie de la foule dit « Non, non, c'est pas un Messie, c'est un pauvre type, lui. T'as déjà vu, t'as vu sa dégaine, sa robe est dégueulasse, il va nu pied, il est suivi par une bande déclopée. » C'est quand même ça la réalité. Hein. C'est un SDF, quoi. C'est à ces trois catégories de personnes qui veulent sa mort, qui sont venues pour l'arrêter et qui n'ont rien à cirer de ce qu'il raconte, que Jésus dit « Si vous avez soif », donc ça veut dire « Vous avez soif », eh bien, si c'est le cas, venez. Donc, en résumé, sans l'esprit, il n'y a pas de conversion, puisque ça ne nous est pas donné de convertir des âmes. Il n'y a pas d'âme sauvée, et par extension, il n'y a pas d'église non plus, puisque celle-ci est constituée de personnes ayant préalablement été perdues et ayant eu besoin de l'esprit pour être sauvées. En réfléchissant à ça, je me suis dit que Pierre, qui a entendu Jésus lui dire, avec les autres, hein, « Je vais m'en aller, vous envoyer l'Esprit Saint », Pierre a dû être particulièrement frappé, a posteriori, il a dû se rappeler cette parole de Jésus. Lorsqu'à la Pentecôte, justement, au moment où il reçoit l'Esprit, le premier truc qu'il fait avec les autres, il sort de la chambre haute où il se trouvait, et il proclame l'Évangile. Il prêche le salut. À l'époque, vous ne savez peut-être pas dans le contexte des Actes, mais à l'époque, c'est la Pentecôte. Donc, c'est la fête des prémices. Ce n'est pas une fête chrétienne au départ, c'est une fête juive. Hein. C'était le début des récoltes que l'on apportait à Dieu. Parce qu'on le remerciait d'ores et déjà de ce qu'il allait bénir les récoltes. Donc, à Jérusalem, en ce moment-là, il y a des milliers de pèlerins qui sont montés à Jérusalem, des juifs de partout, qui sont montés, des milliers, hein, qui sont montés à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et Pierre, il vient de recevoir l'Esprit, premier truc qu'il fait, il dit ça, c'est super, je vais me mettre dans mon coin et prier, mais amener ma petite bougie. Non, non. Il prêche l'Évangile. Il dit, le Jésus que vous avez crucifié, c'est votre Messie. Et le texte des Actes dit, 3000 conversions. Le rêve de tous les pasteurs. Je parle 3000 conversions. Hein ? Il faudra me dégager un peu la grande place de Brun, parce que ça va être trop petit, hein, mais. 3000, c'est incroyable. Et ça m'étonnerait que Pierre, après ça, en voyant tous ces juifs se repentir et rencontrer, honnêtement, il a dû penser à cette parole de Jésus. Il vaut vraiment mieux que je m'en aille. Vous savez, Jésus, il n'a jamais converti 3000 personnes. Quand il dit à un autre moment, vous ferez, avec le Consolateur, hein, vous allez faire de plus grandes œuvres que moi. Alors on dit, mais c'est pas possible, moi je ne suis pas capable de faire du miracle. Ah non, le plus grand miracle, c'est une conversion, mes amis. Et ça, il y a des hommes et des femmes sur. Des chrétiens qui ont vu se réaliser cette promesse de Jésus, vous ferez des plus grandes choses que moi. 3000 personnes se donnent à Dieu. Personnes qui se rajoutent à l'Église. Au départ, ils sont allés avec les 11, hein, puisque Judas est tombé, les 11, puis il y en a d'autres, hein, les femmes, Marie, la maman de Jésus, etc. Mais ils ne sont pas très nombreux en un coup. 3000. Et hop, je ne vous dis pas l'organisation juste après pour. Mais ça, c'est un autre problème. Donc Pierre a dû prendre conscience à ce moment précis de la signification des paroles que Jésus leur avait dit. Il est avantageux pour vous que je parte. Maintenant, il y a une deuxième sphère d'activité de l'Esprit Saint. Ça peut-être vous rassurer ou vous faire peur, je ne sais pas. L'Église. Par provocation, je vous ai mis une femme pasteur de l'Église réformée de France. C'est l'Assemblée du désert, hein, si ça vous intéresse, dans les Cévennes, où je vais tous les mois d'août. On commémore la période au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, même le XVIIe, surtout sous Louis XIV, où les protestants étaient persécutés, devaient aller au désert, donc dans la campagne, dans les Cévennes, dans les bois, pour réaliser, faire les cultes, parce qu'ils étaient persécutés. Alors, cette sphère d'activité de l'Esprit, le fait que l'Esprit Saint soit donné à l'Église, est symbolisée à la Pentecôte par la présence des disciples qui reçoivent, femmes comprises, ça doit nous dire quelque chose, n'est-ce pas? L'Esprit Saint. Alors, je pense que nous serons tous d'accord pour dire, à la lecture de l'Évangile, que les disciples de Jésus, les doux, n'avaient pas compris grand-chose en temps réel à ce que Jésus enseignait. Hein? Je vais rarement le dire, mais ils étaient là. T'as compris ce qu'ils racontaient? Rien du tout. me fait semblant, et aussi il va encore nous poser des questions, on ne saura pas répondre, on va passer pour des cloches. L'évangile en est plein de ce genre de trucs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Seigneur n'est pas dupe. Il sait très bien, à un moment, il dit, mais combien de temps je vais encore devoir vous supporter, quoi. Et il sait aussi que l'Esprit va leur permettre, et par extension, nous permettre de grandir dans la connaissance et la compréhension des choses de Dieu et dans notre amour pour lui. Et là encore, Pierre a dû faire le rapprochement avec son message de la Pentecôte. Parce que mes amis, à l'analyse, et Paul le dira à l'église de Corinthe aussi, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon le monde, pas beaucoup de puissants. En fait, le choix de Dieu pour ses disciples, pour choisir ses disciples, il est plutôt... Enfin, on ne choisirait pas comme ça, en fait. Imaginez que vous soyez directeur d'entreprise, vous recevez des CV, vous avez besoin d'un directeur général pour votre boîte. Il y a un gars, vous recevez un CD à trois lignes, je suis en dessous de tout, je ne vaux rien, j'ai une très mauvaise image de moi, mais j'ai besoin de travailler. Et puis vous avez un autre, 10 pages de CV, il a réussi dans tous les domaines de l'entreprise, etc. Quel PDG général, quel PDG va prendre le premier CV et va engager la première personne? Aucun. Eh bien, Dieu, c'est ce genre de PDG. Il prend ce que le monde ne veut pas. Et c'est ce qu'il a fait avec Pierre, parce que Pierre, bon, il a une petite entreprise de pêche, mais enfin, ça ne vole pas très haut quand même au niveau formation. Hein. Au niveau académique, les diplômes, ils ne flottent pas sur l'eau. Hein. Eh bien, c'est quand même à Pierre, entre autres, qu'il confie le message. Lui, un simple pêcheur, pas un pêcheur comme ça, j'entends. Un homme peu éduqué, bon, enseigné par Jésus, vous me direz, mais quand même, avec ses limites. 3000 âmes, il verra ça, 3000 âmes venir à Dieu lors de son premier sermon. Alors, ce n'est pas Pierre, hein, quoi qu'il connaissait un peu la parole de Dieu quand même, c'est la force, la puissance de l'Esprit en lui. Cela va de même étonner, quelque temps plus tard, les pharisiens, les responsables, les scribes, les gens qui enseignent l'Ancien Testament au peuple, de ce que quand ils vont interroger Pierre après avoir arrêté, ils vont être subjugués par ce qu'il leur dit. Ils se diront après, mais comment un gars issu comme ça du peuple, n'ayant aucune formation académique et théologique, peut dire des choses pareilles? C'est pas possible, c'est pas normal. Puis, quand on s'arrête à nous, on va revenir à nous, je parlais des disciples, mais comment est-ce qu'on comprendrait quoi que ce soit à l'Écriture, et quoi que ce soit à l'action de Dieu dans nos vies, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit? On ne comprendrait rien du tout. Rien du tout. Enfin, ça, c'est mon avis, en tout cas, je le partage, comme disait l'autre. C'est lui, nous dit Jésus, d'ailleurs, qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va vous faire comprendre tout ce que je vous aurai enseigné et tout ce que j'ai fait sur cette terre. Alors, je parlais de soif, hein, que le monde meurt de soif, que le rame a soif, et je n'ai pas pu m'empêcher. Hein, je n'ai pas pu m'empêcher de remettre cette parole en parallèle avec notre vie à nous, qui sommes des enfants de Dieu et qui sommes habités par le Saint-Esprit. Donc, de nous devrait couler des fleuves d'eau vive. Hein? Je ne sais pas s'il y a des plombiers dans la pièce, mais un petit filet d'eau, à qui de temps en temps, c'est déjà pas si mal, mais Jésus, il ne parle pas de petit filet d'eau, il parle de fleuve. Moi, je pense qu'on ne peut pas lire ce genre de texte sans se poser des questions, quand même. Je ne parle pas de déclaration de foi intellectuelle. Hein. En quoi tu crois? Je crois en tac, tac, tac. Certains chrétiens sont capables de faire ça. Je crois en... C'est bien, hein, il faut le savoir. Si on ne sait pas de quoi est constitué notre foi, on ne risque pas de la faire grandir. Mais en attendant, la théorie, ce n'est pas le problème. Ça le devient de plus en plus quand même aussi. Hein. Il n'y a plus de théorie non plus. Mais on parle de pratique ici. Parce que souvent, notre vie est supposée parler plus fort que nos paroles. Parce que c'est notre vie qui dit le mieux au monde, et quelque part à nous-mêmes aussi, qui nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous aimons. Donc, comment est-ce possible d'être habité par l'Esprit de Dieu et de dégager aussi peu sa présence? Comment peut-on être venu à Jésus, posséder ces fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit, et être encore mort de soif? Parce que quand on regarde l'Église en grande majorité aujourd'hui, les chrétiens sont morts de soif. Ils ne se rendent souvent pas compte eux-mêmes, hein, mais ils sont morts de soif. Ben, c'est probablement John Piper, le pasteur écrivain américain bien connu, hein, qui le dit de la façon la plus radicale. Il est à côté, il a 80 ans quasi maintenant, Piper. Hein, mais soit on fait de Dieu ses délices, vous rappelez ce que je faisais, disais, soit on meurt. Alors, il ne parle pas de mort spirituelle, hein. Enfin, je ne veux dire pas mort pour l'éternité. Hein. Aujourd'hui, spirituel, bah, si ce n'est pas Dieu qui remplit, si on ne prend pas ce chemin-là, on en prend un autre, hein, quel qu'il soit. Mais le résultat, il dit, c'est ça, et je suis d'accord avec ça. Hein. Si ce n'est pas Jésus le centre, vous n'allez pas systématiquement à sa source pour vous abreuver, ben vous mourrez de soif, vous serez mort. C'est quand même, j'en ai discuté plusieurs fois avec certains de mes formateurs en psychothérapie, qui étaient tous des psychothérapeutes chrétiens. C'est hallucinant qu'il y ait autant de psychothérapeutes chrétiens qui s'occupent, parce qu'ils sont chrétiens, surtout de chrétiens. Parce que quand on est chrétien et qu'on a besoin d'aide, souvent on voit des psychothérapeutes chrétiens. Parce qu'on se dit, au moins, eux croient en Dieu, ils ne vont pas me prendre pour un cinglé. Ils vont intégrer la dimension de Dieu dans ce qu'ils vont faire avec moi. Et c'est logique. Mais c'est que c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Comment se fait-il qu'autant de chrétiens vont mal ? Dieu a changé ? Pense pas. La Bible dit qu'il ne change pas. L'Esprit Saint, je ne sais pas, moi, il est parti en vacances, il est passé un petit peu, il dit, ouf, passe pas grand-chose ici dedans, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Bibliquement, c'est pas tenable, il est toujours là, plus ou moins. Parfois, dit Jésus, c'est un petit lumignon qui fume, hein, c'est la fin d'une bougie. Et Jésus dit, mais ça, je protège, hein, ça ne s'éteindra pas, mais il faudrait remettre le feu là-dedans. Hein. Moi, c'est des questions qui m'interpellent, mais par rapport à ma propre vie aussi, hein, quand je suis en dessous de tout. J'ai encore ça avec un ami il n'y a pas longtemps, ça m'a l'air comme ça, mais moi je me passe rien, moi. Donc j'ai des soirées très compliquées parfois, devant Dieu. Soit on fait de ses délices, de Dieu ses délices, soit on meurt. Soit on apprend sous la conduite de l'Esprit à prendre son plaisir en Dieu de manière, c'est important, hein, à faire pâlir toutes les autres choses, pouvoir absorber nos affections. Pas pour ça que Dieu ne vous donne pas d'autres choses, hein, mais si ces autres choses prennent sa place, vous ne prendrez plus votre plaisir en Dieu. Et vous serez mort. C'est pour ça que les gens ne sont pas attirés. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est un mec ou une gonzesse comme les autres, qui ne dégage pas spécialement Dieu. Oui, tu peux dégager des phrases, mais Dieu... Depuis, ça fait longtemps qu'on vous a dit, qu'un de vos amis qui ne connaît pas Dieu vous a dit, ah, tu te caches, moi je ne crois pas en Dieu, mais tu es méchamment habité. Hein. Ça remonte à quand, ça? La dernière fois qu'on vous a dit ça. On sent qu'il y a un truc, hein, quand même. Je ne sais pas trop quoi, mais... Vous allez me dire, ce genre de conversation a double sens, parfois. Hein. Ça peut venir, vous êtes complètement cinglé. Hein. Donc c'est soit ça, soit nous prendrons ce chemin, c'est un chemin comme toujours, hein. Soit d'autres choses vont absorber nos affections, notre temps, notre énergie, notre implication, nos engagements. Soit nous vivrons des vies chrétiennes internes et notre âme ressemblera davantage à un désert qu'à un jardin de délices, ça c'est sûr. Et ce qui est terrible, mais c'est souvent comme ça avec Dieu, il n'y a pas de milieu. D'un côté, il y a deux chemins. S'il y en avait trois, ça serait encore plus compliqué. Il n'y en a que deux. Il faut apprendre parfois douloureusement qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et pour moi, maintenant, on va prendre deux versets du psaume 73. Pour moi, c'est les deux versets, il y en a d'autres, hein, mais les plus importants de toute la Bible. Qui d'autre ai-je que toi ? Pardon. Qui d'autre ai-je au ciel ? Réponse. Personne. Ça, je vous garantis. Au ciel, on n'avait personne d'autre que lui. Mais ça ne suffit pas. Et c'est Asaph, hein, c'est le responsable de l'ange sous le roi David. Donc, c'est 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il a une famille, Asaph. Hein, il a des enfants. Il aime sa famille, il aime ses enfants. Mais il ne prend plaisir qu'en Dieu. Et c'est pour ça qu'il aime ses gosses comme il faut et sa femme comme il faut. Hein. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Il est lucide. Hein. Il est en train de mourir, comme tous les hommes, comme toutes les femmes. Il meurt un jour à la fois. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, ce qui va le tenir droit et stable, et ma bonne part, autrement dit, ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi ? Parce que ça ne bouge pas. Tout le reste bouge, mes amis. Nombre de fois, on promet à une femme ou à un homme, je te serai fidèle toute ma vie. Ah oui, t'as combien de temps si on y va que par nos propres forces ? Vous voulez voir les stats du divorce ? Ben, vous verrez. Et tout le monde s'étonne, mais ce n'est pas étonnant. Mais la base du phénomène, la base du problème, c'est quoi ? C'est ça. Pour être tout à fait précis, si vous ne connaissez pas le psaume 73, Asaph, avant de dire ça, c'est un long psaume, hein, Tout le reste du psaume, il se place devant Dieu en disant, écoute, moi, je ne comprends pas. Les gens qui n'en ont rien à foutre de toi, ils réussissent mieux, ils ont plus de pognon, ils ont une meilleure situation. J'en peux plus, quoi. Donc, il ouvre son cœur. Je n'en peux plus. Il dit, moi, j'ai quasi idée. Je passe ma vie à essayer de t'obéir. Je suis là dans le temps avec des tambourins. Yeah. J'écris des cantiques, on les chante le dimanche. Enfin, pas le dimanche, le samedi, toujours là, le Shabbat, le vendredi soir. Moi, je ne comprends plus rien. Ça, c'est le premier start. Donc, il était un peu cucu. Et c'est pas un petit, hein, Asaph. Donc, c'est un gars, quand ça lui tombe sur la cafetière, il a déjà du volume spirituellement. Hein. David est un homme inspiré. Il n'aurait pas confié la louange dans le tabernacle à quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Hein. Et après, il dit, j'ai eu du mal. Je peux vous paraphraser de même. J'ai eu du mal avec ça, Seigneur. Et en fait, quand je me posais ces questions, j'aime beaucoup ce texte, ce verset, j'étais comme une bête, plus un homme. J'étais comme une bête. Quelle est la différence bibliquement entre une bête et un homme? Une bête n'a pas d'âme. Une bête loue Dieu parce qu'elle reste cantonnée dans son fonctionnement devant Dieu. Elle ne peut pas pêcher. Le lion, quand il tue une antilope, il ne pêche pas. C'était méchant avec l'antilope, hein, d'accord? Il dit, par ce genre de questionnement, qui ne sont pas, où mon âme s'égare, où mon âme commence à mourir de soif loin de toi, même si je suis dans le temple en train de taper des mains, toute ressemblance avec des églises, ce serait purement fortuite, mais c'est malheureusement souvent le cas. Quand je pensais comme ça, Seigneur, j'étais comme une bête. Sans le souffle de vie que tu as donné à l'homme, sans cette âme que tu as insufflée en lui. Et c'est après, ça a été douloureux, dit Asaph dans le psaume, que finalement, il a compris ça. Et alors, plus loin, je ne l'ai pas mis, mais verset 28, écoutez bien, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas les thunes, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes enfants, même si c'est super. Hein. Mon bonheur, c'est d'être près de toi. Mais c'est valable pour tous les chrétiens. Le troisième endroit de vie et d'expérience de l'esprit, de son action, c'est évidemment dans nos vies, en nous. Je suis le troisième lieu d'activité de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas chronologique, hein, c'est en même temps. Hein. Et pour revenir, parce que ce point-ci, le précédent, se tiennent forcément, fortement. Il faut comprendre, je sais bien qu'on peut lire la Bible, il y a des outils d'exégèse, d'interprétation, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais plusieurs textes peuvent être interprétés en parallèle. Hein. Donc il n'y a pas toujours une seule interprétation, il y a plusieurs interprétations qui peuvent se tenir par rapport au texte. Quand on est la jeunesse, c'est une des dimensions, on passe à côté, on est là dans oui, combien de 24 heures les jours, est-ce que ce sont des périodes géologiques, on s'en fout. Quoi. Ce que dit la Genèse, c'est que dès le début, dès le premier verset du premier livre de la Bible, Dieu affirme que l'homme a été créé pour prendre son plaisir en lui. Voilà. Rappelez ce verset extraordinaire, où dans le, je cite de mémoire de la Genèse, dans la douceur du soir, Dieu se promenait avec Adam dans le jardin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je lis ce verset, il faut que je m'asseye. Quoi. Mais quel pied, quoi. Tu viens boire l'apéro, Seigneur. J'arrive, Adam. Dès l'origine, l'homme a été créé pour prendre son plaisir en Dieu. Malheureusement, vous le savez, le péché a détruit cette capacité qu'avait l'homme de se réjouir, de connaître Dieu et d'être simplement heureux de sa présence. C'est cette simplicité qu'on a perdue. Cette capacité spontanée de nous réjouir, de nous émerveiller de ce que Dieu est mon ami. Et c'est ça aussi que l'Esprit-Saint est venu rétablir dans nos vies. Il faut le dire autrement. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Rappelez-vous, hein, Kierkegaard, un cœur pur, c'est quelqu'un qui recherche une seule chose. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, c'est Dieu. Et j'espère que les psychologues chrétiens, quel que soit le problème des gens, reviennent au fur et à mesure à cette centralité du message de l'Évangile. Tu te perds parce que tu as perdu Dieu. Et les blessures existent, et je ne suis pas en train de dire que les psys ne servent à rien. Je pense que Dieu a permis le développement de la psychologie. même si à certains moments Freud a dit beaucoup de conneries, enfin soit. Mais parfois, la psychologie moderne va à l'encontre de ce que dit l'écriture, et à un moment, il faut choisir aussi. La présence de Dieu, avant, était un émerveillement, et ça peut le redevenir, ça doit l'être, c'est la pensée de Jésus pour nous. Aujourd'hui, contrairement aux apparences, le désir de Dieu pour nous, en tout cas, n'a pas changé, son amour à lui n'a pas changé. Alors vous me direz que le péché obstrue notre capacité à nous réjouir, c'est vrai, mais il faudra quand même rappeler qu'en parlant de discipline spirituelle, j'avais dit que la joie en était une. Et c'est vrai que ça peut obstruer, mais c'est justement là qu'intervient l'Esprit dont le rôle est de faire grandir le Christ en nous. C'est pour ça que notre croissance spirituelle, qui est en fait le développement du Christ en nous, est si importante, parce que plus le Christ grandira, plus il vivra pleinement sa vie en nous, plus nous nous réjouirons en Dieu. Parce que Jésus, il ne peut pas faire autre chose autrement que se réjouir en son Père. Il ne peut pas faire autrement. Si grandissons-nous, nous ne pourrons pas faire autrement non plus. Jésus se réjouissait en Dieu à chaque instant. Certains lisent l'Évangile en ayant une pensée émue parfois envers Jésus, du style, le pauvre Jésus, il n'avait même pas une pierre pour poser sa tête. Un SDF, je vous dis. Et puis tous ces gens qui ne cessaient pas de l'importuner ou qui lui en voulaient. Et puis tous ces gens qui ne cessaient pas de vouloir le mettre à mort. Et ses disciples, comme ils ont dû l'énerver à force de ne rien comprendre à rien. C'est vrai, c'est une lecture, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'est jamais demandé mais comment ils faisaient en fait pour être toujours plein d'amour, toujours dans l'accueil de l'autre? Parce que la vision que je viens de décrire, c'était parfois la nôtre, c'est parfois la nôtre, c'est parfois la mienne, mais ce n'était pas celle de Jésus du tout. Lui se réjouissait de tout ce qu'il vivait, parce qu'il le vivait en son Père et avec lui. Et ça change tout. Ça permet de rester joyeux, même quand les circonstances ne poussent pas à l'être. Il y a une autre sphère d'activité auquel on ne pense pas spécialement, alors qu'elle est reliée quand même à la deuxième. Ben, l'Esprit, il a une vie aussi, il a une activité dans la vie de ceux qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas en Dieu. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, le logo de gauche, c'est les athées, c'est le logo des athées, et celui de droite, c'est le logo des agnostiques. Donc, c'est les deux grandes familles de ceux qui ne croient pas en Dieu, hein, donc ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et les agnostiques, ils disent, moi, je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas, moi, je sais qu'il est inconnaissable pour moi, c'est une compréhension des choses auxquelles je n'ai pas accès. Donc, je ne dis pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est hors sujet, en gros. Hein. Eh bien, la Bible dit que même eux, forcément, hein, ben, l'esprit est une activité aussi. Donc, ça rejoint le deuxième, hein, il a été donné au monde. Hein. Une des façons dont l'esprit rend gloire à Dieu, c'est au travers de son ministère au niveau des non-croyants. Il a un ministère auprès des non-croyants. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là. Parce qu'avant de devenir croyant, on n'est pas croyant. Origène le disait, on ne naît pas croyant, on le devient. Comment il fait? Ben, je l'ai dit, en convainquant qu'il souffre, en convainquant les athées, les agnostiques et tous les autres, hein, qu'il souffre d'une maladie grave que la Bible appelle le péché et qui, par essence, est un poison empêchant l'homme de devenir pleinement homme, pleinement à l'image de Dieu, pleinement humain. Et en glorifiant par la même le nom de Jésus, qui est celui qui donne sa vie pour le salut du monde, parce que c'est le remède à cet obscurcissement de l'âme humaine. Il proclame l'Esprit Saint, il proclame le Christ victorieux à la face du monde, et ça fait 2000 ans que ça dure. Enfin, si on proclame, hein, comme le disait Paul aux Corinthiens, comment croiront-ils si personne ne prêche, hein? Comment croiront-ils si personne ne parle? Si vous dites jamais à ceux que vous dites aimer, vous ne dites jamais rien de la part de Jésus, on a un léger souci. C'est un peu égoïste. Moi, je suis sauvé, merci Seigneur. Eux, ils peuvent crever, j'en fous. J'ai peur de leur parler. Ah, sans blague. Ah ouais, ça, ils vont être contents quand ils sauront après. Que tu avais ce remède à cette vie de con ici et tu ne me l'as pas partagé. Mais t'es fou, toi, quoi. Ils auraient le droit de nous en vouloir, hein, non? Moi, je leur en voudrais. Hein. Dernier point, oui. Et je reviens à l'ascension. Voilà. Passer du temps sur l'esprit, parce que c'est une des conséquences du retour de Jésus auprès de son Père. La quatrième conséquence, c'est que Christ revient bientôt de la même manière qu'il est parti, et du même endroit en plus, du mont des Oliviers. La plupart des chrétiens ne croient plus ça. Ils ne croient pas que Jésus reviendra. Surtout dans les culture chrétienne. L'orthodoxie protestante, ça s'effrite aussi. Catholique, il y a bien longtemps que la plupart des catholiques ne croient pas au retour de Jésus. Il y en a, hein, il y en a bien sûr, mais pas la majorité. Je pense que le pape actuel, il y croit. Il ferait bien de parler là-dessus plutôt que tout systématiquement flinguer dans tout ce qui est de l'ordre moral. Mais c'est une dimension qui se perd. Et avant de dire en tant que protestants que nous y croyons encore, il faut que notre vie prouve que nous y croyons. Parce que nos choix de vie disent quelque chose de « est-ce qu'on croit que Jésus revient ?» Rappelez-vous la question des anges, au moment où les disciples voient Jésus disparaître dans les airs, il dit « vous allez encore rester longtemps ?» Il va revenir de la même endroit. Allez, hop. Get to work, au travail. Allez, hop. Donc, Jésus, il est parti pour mieux revenir. Mais la question qu'il pose, et le nombre de fois où ça va se poser dans l'Évangile, à travers l'enseignement de Jésus, c'est comment est-ce que nous attendons ce retour? Donc, un, est-ce que je l'attends? Posez-vous la question. Hein. Est-ce que je l'attends vraiment? Et deux, si je l'attends, comment je l'attends? Qu'est-ce que je fais pendant que je l'attends? Cette attente, comme il est parti, et que c'est lui qui décide, le Père qui décide de sa seconde venue, ben c'est lié forcément à la volonté de Dieu. L'attente est donc inévitable, mais notre question pour nous, c'est comment j'attends? Alors ça, c'est la finale d'une parabole que vous connaissez bien. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. J'ai dit, il y a énormément de paraboles enseignées par Jésus, qui parle de ce maître qui s'en va et qui va revenir, de ce maître qui confie des talents à ses serviteurs et qui va revenir leur demander des comptes de ce qu'ils auront fait, des talents qu'il a confiés, de ce maître de la vigne qui s'en va et qui confie à ses serviteurs la gestion de sa vigne et qui revient, qui va revenir, et que c'est partout dans les quatre évangiles. Ce verset, il termine la parabole des 10 vierges. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation de cette parabole parce qu'on est parti pour 3 heures, à moins que vous vouliez vraiment, mais je sais que vous ne voulez pas. Comme quoi, vous voyez, un don de l'Esprit-Saint, ça peut devenir une tentation. Donc, cette injonction termine la parabole des 10 vierges, et je pense qu'elle est très interpellante. Sachant que dans ces 10 vierges, 5 d'entre elles, nous dit Jésus, entreront dans la salle des noces quand Jésus revient, quand l'époux revient, pour s'unir avec son épouse, l'Église, et 5 restent dehors. La porte, fais-nous rentrer. Jésus dit, je ne vous connais pas. Encore une fois, vous pouvez lire ça ou passer le passage en disant, ouais, ça c'est une erreur de copiste. Enfin, mais Dieu est amour. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'est pas amour, hein, c'est le fondement de tout. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas lire ça en me disant, oui. Alors, est-ce que l'un d'entre nous connaît l'heure et le jour de son retour? Alors, je pense que la réponse est non. Ok? Alors, dans ce cas, cette affirmation de l'évangile de Matthieu s'avère véridique, puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et que cette phrase, moi je trouve, elle est terrible. À l'heure de participer aux noces de l'agneau, quand l'époux revient, quand Jésus revient, pour chercher son Église, l'époux dit à ses chrétiens, soyons clairs, hein, je ne vous connais pas. Ces vierges ne sont pas invitées à entrer dans la salle où se passe la noce. Pourtant, la parabole enseignée par Jésus dit qu'elles ont attendu. Se sont un peu endormies quand même, c'est ce que le dit le texte, mais elles ont attendu. Mais en fait, est-ce qu'elles sont vraiment attendues? Attendues en espérant, attendues en étant focalisées sur ce retour. Et est-ce que cette attente fervente leur a permis de conserver intact, parce que c'est le centre de la parabole, la présence de l'huile dans leur lampe. C'est leur âme, si vous voulez. Hein. Certaines âmes se sont éteintes, d'autres sont restées allumées, malgré le temps fou qu'a mis l'époux à revenir. Parce que même celles qui ont une lampe allumée, elles se sont endormies aussi. C'est intéressant, mais je n'ai pas le temps de développer. Hein. Mais ça me paraît important pour la réflexion. Quand on lit les épîtres, vous lisez Pierre, vous lisez Paul en particulier, et dans les actes, les références à l'Église primitive, les premières églises qui ont été implantées. Et dans toutes ces lettres que les apôtres adressent à ces églises, chaque fois dedans, c'est vraiment interpellant. Hein. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il ben, il pensait vraiment qu'il allait revenir? Alors, est-ce qu'il est revenu physiquement? Pas encore, historiquement? Pas encore. Mais, dans la perspective de ces chrétiens, ils consacraient leur vie à ce Seigneur qui était à la porte. Et quand vous prenez le texte grec qui dit que Jésus revient, c'est un texte, c'est un terme qui n'existe pas, c'est un verbe, une forme verbale qui n'existe pas en français, c'est une sorte de présent continuel. Il est, depuis qu'il est parti, toujours en train de revenir. Donc, il n'est jamais stable quelque part, il est toujours en train de revenir. C'est la question, et je termine, c'est la question que nous pose l'ascension à la Pentecôte. Je suis parti temporairement, je vous l'ai dit. Je vous ai donné mon esprit pour vous consoler et vous aider à vivre une vie riche de moi, riche de sens et de consécration en attendant mon retour. Faites attention à la manière dont vous vivez votre vie. Que fais-tu de ta vie? Et pour terminer vraiment, je vous laisse le dernier verset de la Bible. Tu vas faire un test de connaissance biblique, ce ne serait pas sympa de ma part, hein, mais c'est le dernier verset de l'Apocalypse. Il dit quoi? C'est le dernier livre de la Bible. Jean, après avoir reçu la vision du retour de Jésus, l'Apocalypse en gros, ça, hein, c'est une description du retour de Jésus et des événements qui doivent précéder ce retour. Jean dit, Maranatha, Seigneur, viens. Le dernier verset de la Bible, c'est une injonction à Jésus de venir. Viens, viens bientôt, viens Seigneur Jésus. L'ascension, ça sert entre autres à ça, à essayer de réfléchir à comment nous attendons. Et la Pentecôte, ça nous permet de nous dire, il m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour attendre dans la joie et l'allégresse, même si la vie sur cette terre peut être parfois extraordinairement difficile et compliquée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.